Nous sommes donc en compagnie de Thomas Valentin et merci beaucoup d'avoir répondu, Thomas, à l'invitation d'Arnaud Langlois-Mérine et d'Anita et de Maya, bien sûr. Alors, votre titre en ce moment est conseiller du président du directoire du groupe M6 pour les contenus. Voilà pour le titre officiel. Alors, j'ai déjà le premier titre officiel, parce que vous verrez qu'il y en a un second. Je vais d'abord faire une petite cartographie du groupe M6 pour rappeler à ceux qui éventuellement n'auraient pas allumé une télévision depuis longtemps. C'est quand même 12 chaînes de télévision, des gratuites et des payantes, 3 radios, des sociétés de production, il y en a 4. Il y a même, vous me l'avez appris, un studio qui produit et coproduit des films, qui les distribue en salle et vend à l'étranger. C'est intéressant à savoir par rapport à ce dont on va parler. C'est aussi à Lyon, je parle là à vos jeunes qui cherchent des tas de boulot, une filiale technologique avec 400 ingénieurs à Lyon pour le streaming de grandes chaînes européennes. Et puis aussi, le saviez-vous, des activités de diversification. Newbies oblige, n'est-ce pas? Alors ce sont les parcs Gulli, les agences immobilières, je pense que là c'est bien sûr Stéphane Plaza et consorts, l'événementiel, les concerts. Donc c'est tout ça à peu près le groupe M6. Alors, j'ai dit qu'il y avait une autre appellation vous concernant, Thomas Valentin, c'est que depuis peu, vous présidez la fondation d'entreprise du groupe M6. Alors moi, ça m'a vraiment intéressé parce qu'il s'agit là d'un sacré défi depuis 13 ans, celui de relever l'action pour la réinsertion professionnelle des personnes qui sont détenues. Agir auprès de gens qui ont fait de la prison. Ça concerne 700 collaborateurs, c'est 6 millions de budget, un travail avec 120 associations et manifestement des gens comme vous et moi qui sont complètement scotchés par ce dont ils sont capables, alors même qu'ils acceptent d'accompagner un détenu, un ancien détenu, quelqu'un qui a fait de la prison. On aura peut-être, j'espère, au détour d'une question, l'occasion de parler de la notion de récidive qui vous a scotché, je crois, et qui est importante. Alors vous, Thomas Valentin, évidemment, on se dit, mais qui êtes-vous, cet homme derrière une... On imagine toujours quelqu'un un peu requin de l'audiovisuel, et voilà que vous êtes un doux, un faux doux, peut-être. J'ai eu le loisir de trouver dans l'une de vos rares interviews, car vous êtes assez discret pour un homme de télévision qui, quand même, disons-le, a tant fait bousculer les choses. Vous avez dit un jour, lorsque seules 200 personnes dans le monde comprennent ce que vous faites, vous êtes coupé des réalités. Être coupé des réalités, c'est manifestement quelque chose que vous ne supportez pas. Tant vous avez des antennes, tant vous aimez prendre le pouls de la société. Et cette phrase, vous l'avez dite pour expliquer à un de mes confrères journalistes pourquoi vous aviez quitté votre premier métier. Un premier métier qui était lié à vos études. Vous étiez à l'époque au sein de l'entreprise Thomson et figurez-vous que ce monsieur, eh bien, il est titulaire d'une maîtrise de physique et d'un DEA d'optique de l'Université de Paris, donc l'optique physique. C'était vraiment votre truc et vous étiez dans un laboratoire spécifique de Thomson. Seulement, voilà, seulement 200 personnes dans le monde savaient ce que vous faisiez. Alors, ce n'est pas dans l'idée de vouloir absolument que le monde vous connaisse, mais c'est dans l'idée d'aller vers les réalités. Et puis, dans l'idée aussi... d'aller peut-être vers l'image. Car si la science vous intéresse, il y a manifestement aussi l'amour du cinéma qui vous étreint. D'abord, c'est jeune, à 20 ans, vous avez fait un court-métrage avec un monsieur qui s'appelle Xavier Couture, qui deviendra lui aussi un grand monsieur des coulisses de la télévision. Et ce rapport à l'image, si je puis me permettre, je pense qu'il a été peut-être infusé par deux personnes. Votre maman, qui a dirigé une agence de photographie, l'image, et puis votre père, ancien architecte, est devenu patron des Beaux-Arts, réalisateur de films, concepteur de musées et à qui je dois nombre d'arrêts sur l'autoroute avec mes parents car il a inventé l'archéodrome de Beaune. Vous vous souvenez, sur l'autoroute, quand on s'arrêtait pour découvrir en images quand même, en vrai, ces installations qui nous renseignent sur nos ancêtres, les Gaulois et autres techniques d'archéologie. Et votre père, là, petit clin d'œil à l'actualité récente, qui a été ordonnateur de grands spectacles, et figurez-vous, 1968, les Jeux Olympiques de Grenoble, il a été ordonnateur de la cérémonie d'ouverture. Pas mal aussi, pour être baigné dans le monde de l'image. Vous êtes donc... désormais un grand technicien du petit écran, comme on aime à dire dans mon métier. C'est une phrase comme ça, mais qui dit quand même pas mal de choses. Et moi, j'ai surtout découvert un fin connaisseur évidemment des contenus, mais surtout un analyste des grandes tendances sociétales. Et vous avez accepté de nous embarquer, vous qui aimez la voile et êtes manifestement un bon et grand peut-être navigateur, de nous embarquer un peu dans les coulisses de cette aventure de l'image, du cinéma d'abord et puis de la télévision qui nous étreint depuis 120 ans maintenant. Donc vous me dites, quand on prépare tout ça, tout commence en 1895. Bah oui, finalement, les frères Lumière.
Quelle introduction, merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, juste pour compléter d'un mot, parce que j'ai été frappé de l'intervention de notre mère, la mère de l'île-Dieu, Madame Charot, qui disait que quand elle était enfant chez elle, pendant les repas, on parlait politique. Et donc, elle est devenue mère de l'île-Dieu. Et nous, à la maison, on parlait, enfin les parents parlaient, parce qu'à l'époque, les enfants ne parlaient pas, de oui. spectacles, de cinéma et de muséographie. Voilà, donc tout ça est assez formateur, toujours, les conversations pour les enfants, ça a du sens. Alors, parler de télévision en une demi-heure, ce n'est pas évident, et j'ai décidé de partir de loin, de partir de 1895. Alors pourquoi remonter à plus de 100 ans en arrière pour parler de télévision ? En vérité, c'est parce que le business model du cinéma et de la télévision n'a pas changé en 100 ans. Et il a été bousculé, disrupté, non pas par un géant de l'Internet, non pas par Amazon, mais par un loueur de DVD. Et personne ne s'y attendait. Alors, rapidement, je vais essayer de vous raconter en 6 minutes et en 6 dates 100 ans de télévision et de cinéma. Alors, vous pouvez peut-être ne pas me faire confiance, que pour ceux qui se souviennent du 6 minutes sur M6, il durait en fait 12 minutes. Mais bon, je vais quand même essayer de le faire en 6 minutes. 1895, création du cinéma à Lyon par les frères Lumière. Création de Gaumont, la même année. Création de Pathé, la même année, l'année suivante exactement, 1896. Deux sociétés qui règnent encore sur le cinéma et la télévision en France. Deuxième date, 1920. En fait, les années 20. Les grands studios américains sont créés à cette période-là. En 1912, un immigré allemand crée Universal. En 1916, un immigré hongrois crée Paramount. En 1923, c'est des noms que vous connaissez, en 1923, deux frères hongrois, immigrés également, les frères Warner créent Warner Bros. Pour Brothers. Un Américain qui s'appelait Walt Disney crée avec son frère, en 1923 également, la Disney Company. Et il travaille sur un truc auquel personne ne croyait, c'était un dessin animé. Et le premier sortira en 1935, Blanche-Neige et les Sept Nains. Et puis, il y a eu création de la 20th Century Fox. C'est un immigré hongrois aussi qui avait créé la Fox. Un Américain qui a créé la 20th Century, ils sont mariés ensemble, ils ont fait la 20th Century Fox. Et puis également la Columbia. Six majors qui ont dominé à l'époque le cinéma, puis qui ont dominé la création, le programme de télévision, et qui dominent encore, mais ils ne sont plus les seuls, la télévision et le cinéma au niveau mondial. Ça, c'est la deuxième date. La troisième date, c'est 1950. Alors 1950, c'est la période de la création de la télévision. Et la télévision a été considérée en Europe après la guerre comme quelque chose de très important, très sérieux, notamment pour l'information. Et essentiellement, en France, en Europe, la télévision était de service public, c'est-à-dire contrôlée par le gouvernement, créée par les gouvernements, tous les gouvernements en Europe, sauf dans deux pays où il y a la télévision privée qui a été créée à cette période-là. Est-ce que vous savez quels sont les deux pays européens où il y avait autorisé la télévision privée était autorisée. Un tout petit pays où il y a moins de gens que dans le 11e arrondissement, qui s'appelle le Luxembourg, qui a créé RTL Télévision et qui était une concession de service public, et un grand pays, la Grande-Bretagne, qui a créé la BBC en interdisant la pub, et ITV, qui existait déjà avec l'exclusivité de la publicité. Mais tous les autres, c'était des gouvernements qui contrôlaient la télévision. Et la télévision s'était contrôlée pendant une trentaine d'années. Il faut savoir que le ministre de l'Information avait le conducteur du JT de 20h et le relisait dans l'après-midi pour s'assurer que tout ce qui était dit au JT de 20h soit bien dit. Il faut se souvenir qu'en 1980, donc des années 50 jusqu'en 1980, au début des années 80, on envoyait les CRS pour récupérer les émetteurs de radio privée ou de télévision privée, parce que c'était interdit d'émettre la télévision privée, et ça c'était vrai dans tous les pays européens. Et puis ça a commencé à craquer dans les années 80, et c'est la nouvelle date, les années 80, le début de la télévision privée. Et ça commence en Italie, avec un monsieur qui s'appelle monsieur Silvio Berlusconi, qui était très ami de Bettino Craxi, qui était le premier président socialiste du Conseil italien, c'est le parrain de sa fille. Ensuite, Craxi était le témoin de son mariage, donc c'est très proche. Et il a créé la télévision privée, la 5 italienne, Canale Cinque, en Italie. Et dans tous les pays, ça craquait de partout. Souvenez-vous du film Good Morning England. Souvenez-vous de Radio Caroline qui émettait dans les radios internationales, parce qu'on n'avait pas le droit d'émettre de la télévision privée ou de la radio privée. Et en France, on s'y met aussi, mais de manière un peu, non pas discrète, mais pas pour tous, en créant Canal+ en 1984, chaîne privée, mais cryptée, payante, pour financer le cinéma français. Et puis en 86, puis 87, création de deux chaînes privées. Voilà la date importante de 1980. Mais à cette époque, la télévision, elle était émise par voie hertzienne. Et la voie hertzienne, c'est des ondes électromagnétiques. Et les ondes électromagnétiques, elles ont deux caractéristiques. Alors, il y en a une qu'on connaît bien à l'Île-Dieu, c'est que l'émission hertzienne, ça ne va pas très loin. Alors, ça a comme caractéristique d'être uniquement nationale. C'est-à-dire que quand vous émettez même à Paris de la Tour Eiffel, vous couvrez toute la région parisienne, mais vous n'allez pas jusqu'en Allemagne, vous n'allez pas jusqu'en Belgique. Il n'y a que des zones frontalières où on peut recevoir la télévision. Donc, première caractéristique, les marchés de diffusion étaient nationaux, uniquement nationaux. On ne pouvait pas pénétrer dans un marché avec un programme de télévision. Deuxième caractéristique, les radiofréquences, c'est un bien public. Donc ça appartient à l'État ou ça appartient à la collectivité. Et donc c'est l'État qui donne des autorisations d'émettre. Et à cette époque, donc, c'était des autorisations d'émettre pour les chaînes de service public, bien sûr, mais pour les chaînes privées données par l'État. Alors, si vous voulez, tout à l'heure, on pourra revenir sur ce système qui est géré aujourd'hui par un organisme indépendant qui s'appelle l'ARCOM pour donner des autorisations. Donc, voilà le système qui est en place, un marché, des marchés nationaux. Alors, en vérité, il y avait, je vois Louis-Bertrand Raffour qui est là-bas, il y avait d'autres manières qui étaient la télévision par câble et la télévision par satellite, qui s'est développé dans les années 80-90. Mais en vérité, il y a eu des chaînes internationales, CNN, MTV, il y en a même eu beaucoup. Il y a des chaînes nationales, internationales, qui se baladaient un peu partout. Même une centaine de chaînes, en vérité, qu'on pouvait recevoir si on avait le satellite, si on avait la télévision par câble. Mais ça ne représentait que 10% de part de marché. Donc, la télévision, c'était national. Avant-dernière date, 1998, l'explosion d'Internet et la création de Google. 2003, juste après 98, pendant cette explosion d'Internet, création par deux garçons de YouTube. L'année suivante, racheté par Google. Explosion d'Internet qui fait que les géants que vous connaissez, Google, Amazon dans un autre domaine, YouTube, Facebook, tous ces géants, sont voraces. Ils rachètent toutes les sociétés et ils veulent racheter également, évidemment, Hollywood, les producteurs et les détenteurs de tous les catalogues de cinéma depuis 1912, de tous les catalogues de séries depuis les années 50. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que, entre-temps, en 1998 également, le gouvernement américain change la réglementation et permet aux sociétés de production d'acquérir les networks. Donc Disney achète ABC, Paramount achète CBS, Universal achète NBC. Et donc ça devient des forteresses imprenables qui sont à la fois dans la production et la diffusion. Et donc, étant dans le business de la diffusion, ils n'avaient pas très envie que YouTube mette toutes leurs séries gratuitement. Donc ils ont résisté à tout ça. Et dernière date, j'espère que c'est un peu moins de 6 minutes ou un peu plus de 6 minutes, à peine. Dernière date, c'est 2005, en France en tout cas. La technologie permet de passer sur les fréquences, technologie numérique, n'ont pas une chaîne, donc 6 chaînes nationales. Il faut se souvenir qu'avant 2005, il n'y avait que 6 chaînes en France, hertziennes, et d'en passer sur la même fréquence, sur l'équivalent d'une fréquence analogique, on passe 6 réseaux, donc 6 fois 6, 36, à peu près une grosse trentaine de chaînes de télévision sont autorisées à partir de 2005. Donc c'est la création de Gulli, c'est la création de W9, de TMC, de ce qui est devenu TFX, LCI, toutes ces chaînes ont été diffusées sur le plan national. Et donc on est passé d'un système à 6 chaînes, nous on trouvait ça déjà très compliqué, avec non plus 6 concurrents, enfin 5 concurrents, mais 27, 28, 30 concurrents.
Et M6 existe déjà depuis
87. Existe et M6 est parti de zéro, c'était une création et on a s'est développé, on était la plus petite des chaînes et donc on s'est développé comme ça. Et le système est toujours le même, comme en 1912, comme en 1950, c'est un système qu'on appelle B2B2C, business to consumer. Business, c'est les producteurs qui travaillent avec des diffuseurs, soit des salles de cinéma, soit des chaînes, et des consommateurs derrière. Et là, badaboum, il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 10 ans, il s'est passé quelque chose de tout à fait nouveau que personne n'attendait. C'est l'arrivée d'un loueur de DVD, et non pas d'Amazon ou de Google, et qui a bousculé le système. Il ne l'a pas remplacé, mais il a bousculé le système. Alors, je vais vous raconter,
alors,
si
Netflix,
vous m'autorisez.
Oui, bien sûr.
Netflix.
Donc, qui existe déjà à l'époque, depuis 10 ans d'ailleurs, qui loue des DVD. Et j'ai lu dans un papier un titre que j'ai trouvé génial, en disant c'est la paresse qui a créé finalement cette vidéo on demand, cette VOD.
Alors, c'est un peu plus que la paresse, c'est l'agacement. Vous vous souvenez, dans les années 90, on louait des vidéocassettes. Il y avait des vidéoclubs. Puis après, dans la fin des années 90, c'est devenu des DVD. Donc, on allait à son vidéoclub. On louait pour 48 heures et si on rendait le truc en retard, on était pénalisé. Donc, M. Reed Hastings loue un film et il le rend avec 2 jours de retard. Il a une pénalité de quelques denars. Il est très agacé. Donc, il se dit, j'ai une idée simple. On va faire en sorte de mettre en place un système. Là, on est en 1997. Je vais mettre en place un système où on va pouvoir louer des films, des DVD. On peut les louer. Et on peut les garder chez soi le plus longtemps qu'on veut. On peut les garder 30 jours, on peut les garder 60 jours. Et simplement, c'est sur abonnement et on les reçoit par la poste. On n'est pas obligé d'aller chez son vidéoclub. Si on loue un DVD, ça coûte 5 $ par mois. Si on loue 2 DVD, qu'on garde en permanence les deux, 10 $. 3 DVD, 15 $. Un principe assez simple. Il enlève les pochettes pour que ça coûte moins cher à transporter et qu'on reçoit ça dans son, chez soi directement dans la poste. Et puis, donc tout le monde était très content, tous les majors étaient très contents, parce que c'est un nouveau client pour acheter les films, pour acheter les séries, et il n'y avait aucun programme originaux. Et puis un jour, en 2007, il se dit, c'est très bien ce système, enfin la poste est un peu archaïque, je vais mettre mon système sur Internet. Et donc, tous les catalogues de films que j'ai, toutes les séries que j'ai, dont j'ai acheté des droits, on va pouvoir toujours les acheter, les louer avec un DVD. Mais si on se branche sur Internet, on a tout de disponible immédiatement. Les 2000 films que j'ai, je peux les avoir directement pour toujours 5 $. Ou d'ailleurs, c'était plutôt 8 $, 8 $ par mois pour un abonnement. Les majors se disent, c'est très bien, ce gars-là, finalement, va perdre beaucoup d'argent sur Internet, mais il va continuer à nous acheter les droits des films, non plus sur DVD, mais sur Internet. Et tout va très bien. Et puis... il n'y a pas très longtemps, en 2013, il va voir un major, en l'occurrence Columbia, et lui dit « Maintenant, j'ai envie de produire une série, mais qui soit une série originale pour moi Netflix, qui s'appelle House of Cards. » Et on lui dit « Très bien, monsieur, on va pouvoir produire. Vous savez, c'est cher de produire, c'est pas pareil que de louer les films. » Et il dit « Très bien, c'est à peu près une 20aine d'épisodes, une saison d'une série américaine. » Et on lui dit, c'est 100 millions de dollars. Alors il dit, très bien, je vais mettre 100 millions de dollars pour avoir les 20 épisodes. Et alors là, tout le monde rigole en disant, mais il a rien compris ce type-là. Parce qu'il faut savoir que quand un network achetait une série à Columbia ou à Warner, il payait que 60% du prix. Parce que c'était pour le marché américain. Et le reste, c'était revendu à l'étranger, donc on ne payait pas les 100 millions. Lui, il arrive, il dit non, je prends tout. Donc on se dit, ce gars-là, il va faire vraiment faillite très rapidement. Donc il a mis 100 millions la première année, il a fait une deuxième série qui s'appelait Orange and the New Black et qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Maintenant, il met 17 milliards par an pour produire et acheter des programmes. Et là, les gens, et notamment les majors, ont commencé à un peu moins rigoler. En disant, le type, il est en train d'inventer quelque chose de totalement différent, qui consiste à rendre disponibles des programmes de catalogue, des programmes neufs, des séries, un sans publicité, ce qui aux États-Unis est très important, parce que les programmes sont coupés toutes les 12 minutes. Et son système commence à se développer. Il perd de l'argent, mais commence à se développer. Puis il va au Canada, puis il va un peu partout en Europe. Aujourd'hui, il est dans 167 pays. Il a 277 millions d'abonnés, 277 millions de cartes de crédit qui sont débitées tous les mois. Et il a inventé un nouveau système. Et là, les majors, notamment américains, il a inventé un nouveau système. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de faire du B2B2C, il a fait du B2C. Il est assis à Los Gatos, au sud de San Francisco, et il touche directement et il facture directement les consommateurs. Donc les gens dans les salles de cinéma disent, les exploitants de salles de cinéma disent, mais attendez, monsieur Martin Scorsese, avant, quand il faisait un film, on le mettait dans le cinéma. Maintenant, il va directement sur Netflix. Les salles de ciné, les diffuseurs ont dit, mais attendez, je ne comprends pas. Avant, Deux flics à Miami, c'était pour moi. Et puis là, maintenant, les nouvelles séries, elles sont directement pour Netflix. Donc il a disrupté complètement le marché sans que personne le prennent vraiment au sérieux, notamment en 2013, seulement en 2013, avec House of Cards. Et puis il est monté progressivement et il s'est retrouvé un peu partout dans le monde. Et seulement en 2017, pas très longtemps, le premier à réagir, c'était Disney. Alors Disney, ils se sont dit assez rapidement, ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Et ils se sont dit, bon, bah, nous, il nous faut du catalogue. Donc ils ont racheté Marvel. Ils ont racheté Pixar, vous savez, tous les dessins animés Pixar. Et ils ont racheté la 20th Century Fox. Donc là, hop, énorme catalogue. Et ils ont lancé Disney Plus dans le monde entier. Ils perdent encore de l'argent. Simplement, le dernier trimestre, là, ils ont commencé à en gagner. Ils l'ont lancé en 2017. Et puis les autres se sont dit, bah, nous, il faut peut-être qu'on s'y mette aussi. Donc Warner a lancé un système mondial. Universal a lancé un système mondial. Et en 4-5 ans, les 6 majors... cinq majors ont lancé leur système. Et puis il y a quelqu'un qui n'était pas du tout dans le business, qui s'appelle Amazon, qui a dit, bah, moi je fais payer 49 euros ou 49 dollars pour la livraison gratuite, et ben, je vais faire mon Netflix à moi, et quand on prend la livraison gratuite, on a Prime Video, c'est-à-dire leur Netflix, qui produit aussi des séries originales, et je vais le mettre à disposition de tout le monde, gratuitement, là, pour le coup, ou en tout cas compris dans le prix. Voilà. Donc comment, tout d'un coup, les Américains ont dominé le monde du streaming.
Alors on passe donc en 2007, enfin depuis 2007, d'un marché de l'offre finalement à un marché de la demande. On en arrive à 6 streamers importants. Comment la télévision évolue-t-elle pendant ce temps-là et quelles armes aurait-elle pour pouvoir se battre dans tout ça ?
Alors quand on entend ça, on se dit les pauvres, la télévision traditionnelle, ils vont avoir du mal. Alors simplement, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Pour les télévisions traditionnelles, monsieur Netflix, monsieur Reed Hastings, n'a pas été le seul à se rendre compte qu'on pouvait diffuser la télévision, non pas simplement par les ondes, mais également par Internet. Grâce à la technologie de l'ADSL, puis de la fibre, on pouvait passer des programmes de télévision dans les circuits téléphoniques. Et donc, dès 2007, et M6 a été un des premiers à le faire, on a décidé de mettre tous nos programmes sur Internet, avec ce qui s'appelait M6 Replay, qui s'appelle M6 Plus maintenant. Et toutes les chaînes ont fait ça, TF1+, France.tv. Et donc, ça s'est appelé le replay. C'est-à-dire la possibilité... Et à l'époque, ce n'était pas du tout évident pour une chaîne de télévision, parce que le métier d'une chaîne de télévision, c'est de donner des rendez-vous. Pour ça, le 19h45 s'appelle 19h45, pour qu'on se souvienne bien à l'heure à laquelle il est. Le film du dimanche soir sur TF1, ou Capital, ou Zone Interdite le dimanche soir, si vous voulez mettre ça dans la tête des gens.
pour qu'il soit habitué. C'est l'instant, c'est l'immédiat, c'est le moment.
C'est l'instant,
a priori,
l'immédiat.
C'est l'instant.
Alors pourquoi c'est important d'avoir de cet instant, cet immédiat, et pourquoi les gens sont grattés la tête avant de lancer le système? Bah, simplement parce que les chaînes privées, c'est financé que par la pub. Et la pub, c'est le seul donc recette. Et le fait de réunir des millions de gens devant un programme avec un spot publicitaire qui va être vu par des millions de gens, plus il y a de millions de gens, plus ça vaut cher, mais plus ça vaut cher au coût pour mille. Donc plus on a de millions de téléspectateurs à un instant donné. Et donc le fait de se dire, bah, regardez Capital, c'est dimanche soir à 20h50, à l'époque c'est 20h50, et ne le ratez pas, et de dire en même temps, c'est pas grave si vous le ratez parce qu'on va le mettre sur la plateforme, c'était pas évident. Mais tout le monde s'est lancé dans le replay.
C'est pas évident de se dire combien ça coûte, combien ça vous coûte à vous, annonceur. Il y a l'instant T, alors, et après il y a les histoires de replay.
Voilà, alors ça nous a sauvés dans une certaine mesure, parce que on est arrivé donc dans ce système mondial, globalisé, avec des gens qui font du B2C, et avec deux autres révolutions qui ont eu lieu simultanément, qui ne sont pas directement la télévision, mais qui ont un impact sur la télévision, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et tous les autres, c'est un marché publicitaire absolument considérable. Et c'est aussi ce qu'on appelle le marché de l'attention, le temps qu'on passe devant ces programmes-là. Enfin, ce n'est pas des programmes d'ailleurs, mais qu'on passe devant son smartphone. Et c'est une puissance publicitaire considérable. Il faut que vous ayez en tête que depuis des années, dans le monde entier, 80% de la croissance des investissements publicitaires, 80% de la croissance est captée par deux acteurs, Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, un acteur. Deuxième acteur, Google, YouTube. 80% de la croissance est captée par ces deux. Voilà. Donc c'est le marché de la publicité digitale, c'est un marché qui est important, qui se développe énormément. Et M. Reed Hastings, qui avait dit, un, la télévision est morte, deux, il n'y aura jamais de pub sur Netflix, un, la télévision n'est pas morte, et deux, maintenant, il y a de la pub également sur Netflix ou sur Disney+, ou sur Prime Video. Donc, on a une concurrence digitale, on va dire. Et puis, il y a une autre, je ne passerai pas trop de temps là-dessus, mais il y a une autre concurrence auquel on pense rarement, c'est celle des gatekeepers. C'est-à-dire qu'entre ceux qui diffusent et les téléspectateurs, il y a des intervenants qui sont les télévisions connectées. Je ne sais pas si vous avez acheté une télévision récemment, dans les 4-5 dernières années. Vous la branchez et on vous dit qu'il faut la connecter sur Internet, autrement elle ne sera plus mise à jour. Donc vous dites, oh, je vais la connecter sur Internet, hop, je la mets sur mon Wi-Fi pour qu'elle soit mise à jour. Mais en fait, sur cette télévision, vous avez en bas un bandeau avec des applications Netflix, YouTube, Prime Video, etc. Et pour être en bas, en plus, vous vous rendez compte que sur la télécommande, il n'y a plus 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a plus les touches alphanumériques. Il y a une touche Netflix, il y a une
et
touche Prime Video, etc.
Ouais.
Donc vous dites, le type qui va appuyer sur la 6, il va avoir quand même du mal. Vous arrivez sur l'écran, tac, vous voyez Netflix, etc. Et si vous voulez avoir une place en tant que TF1, M6 ou France.tv, il faut aller voir M. Samsung, mais aussi M. LG, M. Sony. Et il y a des mises aux enchères tous les ans, au mois d'avril, pays par pays, pour être dans la barre en bas. Alors, si vous ne payez pas trop cher, vous êtes dans la barre en bas, mais à droite. C'est-à-dire
on va pas. On voit pas.
Donc c'est très cher. Donc voilà un gatekeeper. Il y en a d'autres. Les opérateurs télécom, Orange. Alors, c'est un peu plus facile, parce qu'au moins, ils sont français, Orange, SFR, Canal+. Mais c'est des gens avec qui on négocie. On négocie pour être dans la barre, mais on négocie aussi parce que quand on fait de la publicité, aujourd'hui, on peut faire de la publicité adressée, un peu comme Facebook ou Google. Mais quand Samsung ou Orange, moi, quand j'ai envie de faire une publicité, je suis annonceur, une publicité sur M6, il y a Orange qui va me dire, bah, attendez, moi, c'est mes abonnés. Samsung va dire, bah, c'est mes clients. Donc, si tu veux avoir la data de qui regarde quoi à quelle heure, il faut me donner une part des recettes publicitaires. Donc voilà, aujourd'hui, la télévision, qu'est-ce que c'est? C'est des programmes, des producteurs, des diffuseurs, des gatekeepers. Et dans un univers extrêmement violent et mondial, de grands intervenants. Alors, on a quand même beaucoup de chance quand on est diffuseur. Premièrement, parce qu'on est les seuls à pouvoir avoir accès à la télévision hertzienne, qui continue quand même, et qui couvre 100% des téléspectateurs. Sauf quand on habite du côté de Saint-Sauveur, mais on peut compléter avec le satellite. Donc, pourquoi ? Parce qu'en Europe, il faut avoir un maximum de 20% de capitaux non européens. Donc, si Netflix veut un réseau, il ne peut pas. Et comme les grands acteurs sont soit chinois, soit essentiellement américains, ils ne peuvent pas rentrer pour... On a un deuxième atout, c'est que nos plateformes, M6+, TF1+, et autres, elles sont devenues très, très performantes. Il y a 600 millions de vidéos, des vidéos qui sont longues, des programmes qui sont vus sur ces plateformes. Donc, on est sur le marché digital. On a un autre avantage pour les annonceurs. C'est que les annonceurs, quand ils annoncent sur YouTube, d'abord, vous avez vu, vous pouvez passer l'annonce. Au bout de 6 secondes, clic. Donc, quand vous êtes sur M6+, vous ne pouvez pas passer l'annonce. Donc, votre annonce, elle passe en entier. Et puis, deuxièmement, quand on est annonceur et qu'on est sur YouTube, on peut se retrouver à côté d'une vidéo de Daesh. Donc ça, la sécurisation de l'environnement, c'est mieux, on est plus sûr. Nous, on n'a pas de vidéo de Daesh qui passe sur subrepticement, contrairement à YouTube. Alors... Voilà, donc il y a beaucoup d'atouts également pour se défendre dans ce marché. Avant, on était tout seul et tranquille, même si on trouvait ça compliqué. Maintenant, on est nombreux, moins tranquille, mais avec des atouts.
Globalisé et violent. Alors, vous parliez des armes là, publicitaires éventuellement. Vous êtes conseiller au contenu et le cerveau dans tout ça. Est-ce que finalement, l'invention de programmes intelligents, est-ce que ça ne renforce pas finalement ce travail à faire d'inventer quelque chose de toujours encore plus malin, intelligent et qui du coup va plaire, qui va faire que cette demande va venir chercher chez qui il s'appelle, après on s'en fout, on va chercher parce que ça va m'intéresser.
Alors, vous avez raison, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vous ai parlé de business model, je vous ai parlé de pub, de financement, de GAFA, etc. Mais ce n'est pas ça qui vous intéresse, ce n'est pas ça qui compte. Et ce n'est pas ça qui compte pour nous. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir des bons programmes. Et pour avoir des bons programmes, il faut plusieurs choses. Il faut avoir des talents et faire en sorte que les talents, c'est qui ? C'est les réalisateurs, c'est les comédiens, c'est les auteurs et tous les techniciens, que les talents, vous puissiez les réunir pour faire vos programmes. Il faut également des bons producteurs et des bonnes structures de production. Alors, il y a une caractéristique chez les talents, c'est qu'ils vont là où il y a de l'argent. Alors, je vais vous prendre un exemple américain, parce qu'il est toujours plus frappant. Vous vous souvenez, dans les années 70, 80, 90, jusqu'à 2005, il y avait des grandes séries américaines qui étaient faites par les grands talents de l'époque, qui touchaient le monde entier, avec Deux flics à Miami, Beverly Hills, Desperate Housewives, Lost, etc. Et puis, bizarrement, vous vous dites, tiens, c'est marrant, ces grandes séries des grands networks américains, on ne les voit plus tellement. Alors, il y en a encore, mais elles sont moins bonnes. Pourquoi ? Parce que les talents ont été recrutés par les streamers. Les talents américains ont été recrutés par les streamers. Et maintenant, vous vous dites, tiens, c'est marrant, les bonnes séries, elles sont sur Netflix, américaines en tout cas, elles sont sur Netflix, elles sont... sur Prime Video, sur Max de Warner, etc. Ben simplement parce que les talents ont été recrutés, parce qu'ils ont plus d'argent, parce qu'ils sont plus... voilà. En France, comment ça se passe ? Ça se passe qu'ils sont aussi, les Américains, assez puissants pour recruter un certain nombre de talents. Mais il y a deux mais. Premièrement, les gens, les talents, ils aiment bien être bien payés, mais ils aiment bien... également faire en sorte qu'on soit vu. Or, on est beaucoup plus vu quand on est diffusé sur M6, TF1 ou France 2 que quand on est diffusé sur une chaîne qui est payante, par définition, donc on ne touche pas tout le monde. Et il y a une deuxième caractéristique, c'est que quand on est producteur, parce que c'est les producteurs qui réunissent les talents et qui font en sorte qu'il y ait des Monte Cristo, qu'il y ait des petits trucs en plus pour les films, qu'il y ait des séries françaises, voilà. Les producteurs, ils aiment bien... pouvoir négocier avec des gens avec lesquels ils peuvent négocier. Or, quand on travaille avec Netflix, Amazon, Prime Video, la négociation est un peu difficile. Et disons que le rapport de force n'est pas toujours évident. Alors, ça a deux conséquences, cette situation de marché globalisé. C'est que pour éviter que tous les talents aillent là où il y a beaucoup d'argent, On fait en sorte que d'organiser le marché. Alors, il y a un certain nombre d'obligations sur lesquelles on pourra revenir qui sont imposées aux streamers américains. Mais surtout, les sociétés de production se sont renforcées. Elles ont fusionné. Il y a des sociétés qui font 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires mondial, comme Banijay, comme Media One. Donc, elles se sont regroupées. Et puis, les diffuseurs ont voulu se regrouper aussi. Alors là, c'est une autre affaire, parce que la diffusion, c'est quelque chose qui est très surveillé par... non pas le gouvernement, mais par l'autorité de la concurrence. Et quand on a voulu fusionner entre M6 et TF1, l'autorité de la concurrence nous a dit « Ah non, ça, c'est pas possible. Vous allez être trop gros. »
Trop gros.
Alors, ouais. C'est trop gros par rapport à qui ? C'est ça, la question. Eux, ils ont considéré que le marché était un marché français et que YouTube n'était pas concurrent de M6 et TF1 et que Netflix n'était pas concurrent parce qu'il n'y avait pas de pub. Alors, ce n'est pas tout à fait notre point de vue, évidemment. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura des fusions. D'autant plus que les grands streamers américains, ils sont à peu près 6, il y en a 200 ou 300 aux États-Unis, mais il y en a 6 qui sont mondiaux, eux vont fusionner. Ce n'est pas fini.
Donc c'est ce que L'histoire vous dites, n'est pas terminée. N'ayons pas peur d'être grand et gros, c'est ça ? Arrêtons le small is beautiful
arrêtons,
à la française.
Arrêtons le small is beautiful, oui, tout à fait. En tout cas, en matière de télévision, en matière de cinéma, pour faire des bons programmes, pour faire des bons films, il faut plutôt beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, ça ne veut pas dire que des petits films... Il y a deux exemples qui sont en ce moment...
Le petit truc.
Voilà. Et il se trouve que ces deux productions
10 millions M6, bientôt, non ? 9 millions, 10 millions de...
Deux coproductions M6. Donc, c'est sympa, je peux en parler. Oui.
D'autant plus.
Au hasard. Il y a 3 gros films. Un qui s'appelle Vice Versa 2, qui est un film américain, qui a un énorme succès. Et 2 autres qui sont 2 coproductions M6. L'un et les deux, je vous invite à les voir, si vous ne l'avez pas encore vu. C'est Monte Cristo. Monte Cristo, ça vaut une fortune. On a mis énormément d'argent. Et c'est produit par un très grand producteur avec l'appui de Pathé. Et donc de M6. C'est un énorme budget. Et qui a dépassé ce week-end, je crois, les 6 millions d'entrées, ce qui est absolument considérable. Et puis, un autre petit budget, un plus petit film, un excellent film qui s'appelle Un petit truc en plus, fait par Artus. Il se trouve qu'on connaît très bien Artus, qu'on a noué une relation de confiance, donc on a pu faire ce film, et qui a dépassé les 10 millions d'entrées, ce qui est considérable.
Il ne cache pas qu'il a eu du mal à trouver des financements, quand même.
Oui, il a eu du mal à trouver le financement. Et il y a donc,
eu égard au sujet, certes.
Oui, oui. C'était un film qui était difficile à monter. Si vous voulez, on peut parler de savoir comment les films de cinéma se financent en France. C'est assez original. On est le seul pays au monde à avoir un système de financement du cinéma qui s'appuie sur des tas de choses que vous ne connaissez pas, mais qui sont pris directement dans votre poche.
Dites-nous alors.
pour parler du cinéma. Non, mais c'est pour expliquer que Big n'est pas nécessairement beautiful. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent dans un film qu'il va gagner. On peut perdre beaucoup d'argent quand on fait un gros film et qu'il ne marche pas. Et on ne sait jamais à l'avance si un film va marcher ou pas marcher. Mais en général, pour rassembler des talents, des gens qui savent bien écrire, des gens qui savent bien mettre en scène, ils coûtent plus cher que ceux qui débutent. Voilà,
c'est ça. Il ne s'agit pas de passer d'être dichotomique et d'un excès à l'autre. Alors, faisons ce petit passage, on voulait en parler un petit peu après, mais faisons ce petit passage. Concevoir, produire un film en France, pourquoi est-ce si différent d'ailleurs dans le monde ?
Alors, c'est organisé de telle manière à ce que ça soit, qu'on ait une industrie du cinéma soutenue. Parce que les Américains sont voraces et les grands majors américaines ont envahi le monde entier avec leurs énormes films, les Missions Impossibles et autres films que vous connaissez. Et dans les 30 dernières années, les cinématographies britanniques, italiennes, allemandes ont quasiment disparu. Et en France, elles ont été maintenues grâce à un système. Un système, si ce n'est de subvention ou de fonctionnement, qui est assez malin, je dois dire. Par exemple, qu'il y a une taxe sur le billet. Quand vous achetez un billet de cinéma, il y a 10,7%, que le film soit américain, c'est là où c'est très malin, ou français, qui va au Centre national du cinéma.
Le CNC, ouais.
Deuxièmement, toutes les chaînes de télévision doivent donner 5% de leur chiffre d'affaires, pas de leur coût de programme, de leur chiffre d'affaires, au Centre national du cinéma. France Télévisions y compris. Donc, ça, Canal Plus y compris. Et troisièmement, quand on a une autorisation d'émettre, que ce soit Canal Plus ou M6 ou TF1, on a des obligations de financer le cinéma. On doit dépenser de l'argent pour financer des films de cinéma. Donc, un film de cinéma, c'est quoi ? C'est un film qui est en général un film français. Il y en a à peu près 300 qui sont produits par an. Il y en a beaucoup dont on n'entend pas beaucoup parler. Il y en a à peu près 80 qui sont... il y en a à peu près 110 qui sont coproduits par Canal+, qui a l'obligation de les financer. Il y en a à peu près 80 qui sont coproduits par TF1, France 2, France 3 ou M6. Et il y en a à peu près une vingtaine qui font plus d'un million d'entrées. Donc vous voyez que toutes ces... S'il n'y avait pas ce système-là, ni Canal+, ni TF1, ni M6 ne financeraient tous ces films, parce qu'il y en a beaucoup sur lesquels... Enfin, on perd de l'argent sur tous, mais il y en a sur lesquels on perd beaucoup d'argent. Il y en a d'autres sur lesquels on en perd moins. Donc c'est un système, non pas de subvention, mais assez bien organisé, qui permet de produire et d'avoir une cinématographie française qui existe et qui perdure. Donc c'est un bon système.
Levez la main, dites-nous qui veut poser une question. Voilà, devant moi, je vous amène le micro, peut-être le mien. Voilà.
Merci pour votre intervention. Une question double, je fais court. Je fais référence aux grands succès d'audience qui souvent sont fondés sur des contenus triviaux ou attractifs. Et je m'interroge sur le modèle d'Arte, cette télévision franco-allemande qui fait le pari de l'intelligence et de la culture. Je voudrais savoir si ce modèle est pérenne, s'il est financé ou s'il fait break-even, comme on dit dans le métier. Et l'autre pendant de ma question, c'est TikTok que vous avez cité, qui s'adresse à beaucoup de gens et en particulier aux jeunes, avec des contenus qui, là encore, sont triviaux et très attractifs, qui est un grand succès commercial, mais dont on dit que les contenus sont différents en Asie, qui serait plus intelligent, plus éducatif et beaucoup moins en Occident. Qu'en est-il ? Je pose deux questions.
Alors, vous avez raison de parler d'Arte, parce que Arte est une chaîne de service public, mais un peu particulière, qui a été créée par François Mitterrand dans un accord franco-allemand et donc est financée moitié-moitié par l'argent public français et l'argent public allemand, dans une volonté de créer un rapprochement et une chaîne réellement européenne. Donc, la plupart des productions sont faites par des équipes franco-allemandes et les directions éditoriales sont faites par des franco-allemands, avec une vocation culturelle. Et c'est une structure qui n'a rien à voir avec France Télévisions, qui est totalement à part avec son budget. Alors, ce n'est pas un budget énorme, mais ils l'utilisent de manière très, très brillante, avec notamment une plateforme vidéo qui est très, très technologiquement intéressante et qui fonctionne très bien. Alors, est-ce que c'est break-even ? Bah, quand vous avez... ils ne dépensent pas plus que leur budget. Leur budget leur est donné par les deux gouvernements et c'est une chaîne qui est gratuite. Donc, ils sont break-even. Mais il n'y a pas de publicité. Donc, il n'y a pas à aller chercher des recettes et de les trouver ou pas les trouver. Alors, comment mesurer si ça marche ou si ça ne marche pas ? Bah, déjà, c'est une chaîne qui satisfait beaucoup de gens. Sa part d'audience, c'est 3%. Et sa part d'audience sur les moins de 50 ans, c'est à peu près 1,5%. Alors pourquoi c'est important, la part d'audience ? C'est important, en tout cas, pour une chaîne privée. Pour une chaîne publique, à partir du moment où il y a suffisamment de personnes intéressées et qui a une vocation éditoriale intéressante, c'est quelque chose qui est un bel équilibre. Et Arte, à mon avis, n'a pas de souci à se faire pour les années à venir. Alors sur TikTok, je ne sais pas répondre. Je peux répondre sur le fait, parce que chacun sait que c'est un grand succès, que les Américains s'inquiètent sur la remontée de data. Vous savez qu'on peut avoir énormément de data tous les gens qui utilisent les réseaux sociaux. C'est absolument considérable. C'est regarder quoi, à quel moment, et quand vous appelez en plus Amazon et qu'on sait ce que vous achetez, ce que vous faites livrer, ce que vous mangez, etc. C'est considérable. Les Américains s'inquiètent de ça, plutôt pour la remontée de data. Et puis, il y a des inquiétudes, mais qui ne concernent pas TikTok seulement, mais qui est des inquiétudes sur l'impact des réseaux sociaux et l'addiction aux réseaux sociaux de tout le monde, mais surtout sur les adolescents. Il y a des livres très intéressants sur ce sujet et des analyses sociologiques qui sont très intéressantes. Est-ce que les contenus sont différents en Chine et en Europe ? Je ne sais pas.
Moi, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous aviez à dire sur Salto, sur l'expérience Salto qui aurait dû être l'app de streaming française avec tous les programmes de toutes les chaînes combinées ? Et est-ce que maintenant que ça ne fonctionne pas, est-ce que M6 Plus c'est un service de streaming en abonnement et comment vous comptez faire pour vos contenus ou les mettre à qui ?
Ah ouais. Très, très bonne question. Merci. Alors, Salto, pour tout le monde, c'était l'idée de réunir effectivement le groupe TF1 avec toutes ses chaînes, le groupe M6 avec toutes ses chaînes, le groupe France Télévisions avec toutes ses chaînes et tout le replay pour offrir sur une chaîne payante, enfin une plateforme payante, pour offrir tous les programmes, notamment des avant-premières et des programmes spécifiques, et de devenir non pas le Netflix français, mais la super plateforme qui réunissait tous les programmes français. Alors ça a été, premièrement, l'autorité de la concurrence a regardé ça avec intérêt en se disant « Oula, 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 trois grands concurrents qui se retrouvent autour de la même table, on va mettre quand même un certain nombre de règles qui ont fait que le développement de Salto a été complexe. Très complexe parce qu'on ne pouvait pas se parler et on ne pouvait pas savoir, nous actionnaires, un tiers chacun, ce qui se passait dans la boutique. Donc quand vous mettez de l'argent dans une boutique et vous ne savez pas comment il est dépensé, vous n'avez pas le droit de le savoir, c'est quand même compliqué. Ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est, je vous ai parlé des gatekeepers. C'est bien de faire un bon programme, enfin une belle plateforme, encore faut-il qu'elle soit vue. Or, aujourd'hui, 70% des Français reçoivent la télévision à travers... les télécoms, c'est-à-dire à travers Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom et Canal. Et aucun de ces cinq n'a voulu retransmettre Salto. Quand Netflix est arrivé en France, Orange a dit « Hop, je prends et je diffuse ». Canal Plus aussi, SFR aussi. Vous avez sur tous vos box, là, vous avez la box télé, vous avez Prime Video, vous avez tout ça. Et il n'y avait pas Salto. Donc, je ne sais pas s'ils se sont entendus entre eux, mais on a eu un problème de diffusion. Voilà, donc le développement de Salto, qui a été un succès, ce qu'on appelle en OTT, c'est-à-dire en diffusion directe sur les téléviseurs, puisqu'il y a eu près d'un million d'abonnés, donc c'était pas mal, mais n'ayant pas accès à 70% du public, c'était assez compliqué. Et puis ensuite, TF1 a décidé de changer un peu d'orientation, et donc on a arrêté l'expérience Salto. Voilà. Est-ce que c'était trop tôt, est-ce que c'était trop tard, j'en sais rien. En tout cas, l'autorité de la concurrence n'a pas facilité les choses, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, des raisons qui étaient importantes à leurs yeux. Et d'autre part, c'était complexe à opérer avec les gatekeepers dont je parlais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que M6 Plus ou TF1 Plus? C'est pas exactement Salto. TF1 Plus et M6 Plus ou France.tv, c'est des plateformes gratuites. Et c'est un atout considérable d'être gratuit versus des gens qui sont payants. Parce que pour avoir Netflix, il faut quand même payer. D'autant plus que les prix augmentent. Après avoir été à 5 euros, maintenant ils augmentent. Donc on est des plateformes gratuites, financées par la publicité, mais accès à tout le monde. Alors on n'est pas réunis entre nous, on est chacun chez nous. Et il y a, vous avez raison de dire, la possibilité de s'abonner à TF1 Plus Premium ou à M6 Plus Premium. Et quand on s'abonne, on paye à peu près 5 à 6 euros par mois. Et là, on a la même chose, mais sans pub. Voilà. Mais ce n'est pas le business model principal. Le business principal, c'est l'accès gratuit. Alors, l'ARCOM s'est dit, les Européens se sont dit, attention, il y a quand même un grand danger avec ces gigantesques plateformes américaines. Il va falloir faire en sorte que de trouver une loi qui s'appelle les SIG, Services d'intérêt général, pour permettre aux chaînes nationales, britanniques, espagnoles, de tous les pays, françaises, de se réunir et de pouvoir imposer aux opérateurs, imposer à Samsung d'être dans la barre en bas. Et donc, il y a des discussions aujourd'hui, les Britanniques l'ont déjà fait, ils sont sortis de l'Europe, mais ils l'ont déjà fait, et d'autres pays sont en train de le faire, de telle manière à ce qu'on puisse imposer d'avoir une plateforme qui soit commune, dans laquelle il y ait toutes les chaînes de la TNT française, en tout cas celles qui le souhaiteront, pour être accessible, parce que le développement dans les 10 prochaines années, ça va être la télévision connectée. Vous avez vos smartphones connectés et vous allez avoir, vous avez déjà, mais la télévision connectée qui va être l'accès dans lequel, alors là, c'est le monde entier qui est disponible. Et avoir une place pour être vu, sachant qu'il n'y a plus les boutons, ça va être tout à fait important. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Et c'est alors, est-ce que c'est le nouveau Salto? Pas vraiment, parce que ça sera une sorte d'association. Il n'y aura pas de business commun. Chacun fera son business à l'intérieur de cette plateforme.
Une autre question un peu plus loin du coup dans la salle.
Avec la multiplication du lancement des plateformes, il y a eu Max au mois de juin. Qu'est-ce que vous pensez de l'effet élasticité prix? Est-ce que les Français vont être capables de payer tous ces abonnements, sans compter DAZN sur le sport qui arrive ce week-end? Et à votre avis, qui va sortir gagnant? Est-ce que c'est des modèles publicitaires, des modèles par souscription? Et est-ce que les plateformes vont être à un moment donné obligées de fusionner?
Alors les plateformes vont être obligées de fusionner parce que ces grandes plateformes américaines, elles ont beau être très puissantes, elles perdent toutes de l'argent, sauf Netflix. Donc Netflix ne fusionnera pas. Est-ce que Apple un jour va acheter Apple qui a lancé son propre service Apple Plus va acheter, qui est extrêmement puissant, va acheter d'autres plateformes, ou est-ce qu'elles vont fusionner entre elles? J'en sais rien, mais en tout cas c'est sûr qu'elles vont fusionner. Quel modèle va fonctionner? Tous les modèles vont rester en place. Il y aura un modèle de souscription sans pub, donc les Netflix que vous connaissez aujourd'hui et autres Prime Video, premièrement. Deuxièmement, il y aura le système de souscription, mais avec un peu de pub. Donc les Netflix moins chers, à peu près 5-6 euros, avec de la publicité. Des systèmes entièrement gratuits. Ça existe en Allemagne, ça existe ils vont coexister. Et donc, il va y avoir une coexistence de tous ces systèmes. Donc, aujourd'hui, le pari qui est fait par beaucoup de pays, c'est de faire en sorte que les acteurs nationaux ne se fassent pas écraser et donc puissent être autorisés à fusionner. Et moi, je pense que si on faisait cette présentation dans 5 ans, il y aura eu aussi des fusions en Europe, peut-être en France, pour renforcer ces acteurs. Mais avec un modèle qui sera donc triple, payant avec pub ou totalement gratuit.
Alors, autre question. Et entre-temps, j'avais envie de me demander, avec tous ces regroupements, où sera la démocratie dans tout ça?
Alors, vous avez raison. Je n'ai pas prononcé ce mot, mais le mot qui est latent et qui est derrière tout ce que je viens de vous dire, c'est celui de la souveraineté culturelle et de la souveraineté de l'information. Parce que si on laisse des acteurs internationaux décider de tout, et prendre la main sur tous les talents et toutes les audiences, on a une question de souveraineté nationale. Donc c'est important que des acteurs et des sociétés françaises puissent décider de ce que les Français voient ou les Espagnols voient chez eux. C'est très important pour le divertissement, pour les films, pour les séries, pour les émissions de divertissement, mais c'est aussi très important, et ça on n'y pense pas assez souvent, pour l'information. Parce que l'information, ça coûte cher. Ça coûte très cher d'envoyer des correspondants partout et de fabriquer de la bonne information, c'est extrêmement coûteux. Or, l'information la plus fiable, c'est celle des journaux, papier, si je puis dire, ou numérique. C'est celle de la radio et c'est celle de la télévision. Sur Internet et sur beaucoup de plateformes, l'information n'est pas fiable. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fake news. Sur les chaînes professionnelles, disons, l'information est... Comment l'information est financée? Elle est financée à travers des sociétés qui font à la fois du divertissement et des journaux d'information. Les journaux d'information, ou des chaînes d'information d'ailleurs, les journaux d'information sont extrêmement regardés. Aujourd'hui, je vous parle d'un système dans lequel il y a de la concurrence absolument incroyable. Qu'est-ce qui résiste le mieux à cette concurrence mondiale? Un, l'info. Les journaux d'information. Même s'il y a de l'info partout, les gens continuent à regarder leur journal à 19h45 ou à 20h. 20h aussi. Le sport, deuxièmement. On l'a vu avec les Jeux Olympiques, mais c'est vrai, dès qu'il y a un grand match de foot, le sport, c'est très, très important. Et le direct, en général, quand une émission est en direct. Voilà les choses qui résistent, alors que le reste de l'audience peut baisser. En ce qui concerne ces éléments-là, c'est très important. Donc la question de la souveraineté en matière d'information est importante. C'est pour ça que la bagarre est très importante. C'est pour ça que l'Europe s'organise avec les SIG. C'est pour ça que certaines sociétés privées, comme Bertelsmann, qui est un actionnaire important d'M6, mais qui a des chaînes un peu partout en Europe, cherche à créer et à faire en sorte qu'il y ait des fusions. Parce que je peux vous dire que les Américains, pour ceux qui sont amenés à négocier avec les Américains, eux, ils ne s'embarrassent pas de tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est une domination mondiale, qu'ils ont d'ailleurs en large partie, mais c'est important de s'organiser pour résister à tout ça.
J'ai une question parce que vous avez dit une phrase intéressante qui est « on ne peut pas savoir si un film va marcher ». Mais justement, dans un monde où on a des plateformes bourrées de data, on a de la data partout, on a l'intelligence artificielle qui arrive, est-ce que ce n'est pas justement possible désormais de savoir si un film va marcher? Et ma question supplémentaire, c'est est-ce que vous prenez ça en compte avant de créer un film?
Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui se penchent sur cette question de faire écrire des scénarios par l'intelligence artificielle. Ça fait à peu près 120 ans que le cinéma existe, ça fait à peu près 120 ans que les gens se posent la question de savoir si un film va marcher ou pas, et personne n'a jamais trouvé la solution de s'en assurer. Alors, on peut avoir des avis. Nous, quand nous, M6 Film, on co-finance une douzaine de films par an. Il y en a 300 qui nous sont proposés. Les 12 qu'on prend, évidemment, on ne les prend pas au hasard. On les prend en fonction de est-ce qu'on pense que ça va marcher ou pas, etc. Mais je veux vous dire, quand on a fait un petit truc en plus, on a cru à ce film, on s'est dit on va le faire plutôt que d'autres. Mais on ne savait pas du tout que ça allait faire 10 millions d'entrées, ni Artus lui-même d'ailleurs. Quand on a fait Le Comte de Monte Cristo, qui était avec des comédiens, évidemment Pierre Ninet, bien sûr, et des comédiens fantastiques et des réalisateurs et des auteurs exceptionnels qu'on connaît d'ailleurs depuis extrêmement longtemps, un très bon producteur. On a mis beaucoup d'argent parce qu'on y croyait beaucoup et on pensait que ça allait marcher. Est-ce qu'on pensait que ça allait faire 6 millions? On n'en sait rien. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut s'améliorer dans ce business? Oui, on peut s'améliorer. Est-ce qu'on peut le rationaliser? J'en sais rien. Il y a une histoire qu'on raconte, c'est Columbia. Je vous avais parlé de Columbia créée dans les années 20. Et Columbia a été rachetée par Coca-Cola. Puis après, revendue à Sony. L'actionnaire de Columbia, c'est Sony maintenant. Mais on raconte que quand Coca-Cola est arrivé, et, ils ont dit, mais pourquoi on ne fait pas que des films qui marchent? Ben, c'est une bonne question. Juste... Un major, ça produit à peu près entre 10 et 20 films par an. Des grands films, des missions impossibles et autres. Disons une quinzaine en moyenne. Sur les 15, il y en a deux qui marchent. Ou qui sont des énormes succès. Il y en a trois qui marchent à peu près correctement et les autres ne marchent pas. Ne marchent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de recettes pour break-even.
En tant que jeune, et que jeune qui a vécu dans une famille où on m'a transmis la culture du cinéma, j'arrive à voir chez mes amis et chez les personnes que je côtoie qu'au fur et à mesure, l'art du cinéma et de la vidéo se perd. Et ma question, c'est est-ce que vous pensez que l'art du cinéma et de la vidéo va finir par complètement disparaître à cause des géants, en particulier chez les jeunes?
Vous trouvez que l'art du cinéma se perd?
Je trouve, oui, par rapport à TikTok, par rapport à toutes les plateformes qu'on nous propose, le cinéma, c'est devenu une banalité. On voit un film comme juste une histoire qui se raconte et plus comme un art, comme on irait regarder un tableau au musée.
Alors, que le cinéma soit fortement concurrencé par la vidéo, par YouTube, en termes de temps passé, en termes de type d'offres, c'est certain. Est-ce que c'est moins un art, comme on regarde un tableau, qu'il y a 10 ans, 50 ans? Je ne suis pas certain que ça soit le cas. Qu'il soit fortement concurrencé, c'est absolument certain. Est-ce que cet art se perd? Je ne crois pas. En tout cas, il peut se perdre. En Italie, il s'est perdu. Alors non pas parce que les Italiens ne sont pas bons, mais c'est parce que le système économique en Allemagne, en Grande-Bretagne, il n'y a pratiquement plus de films allemands, de films italiens et de films... Voilà, parce qu'il faut de l'argent pour faire des films. Il y a des films italiens encore, quelques-uns. Quand je dis qu'il n'y en a plus, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a encore quelques-uns. Il y en a qui sont des merveilles, mais il n'y en a plus beaucoup.
Moi, je me demandais un petit peu comment se positionner un peu l'Asie dans tout ça. Comment consomme-t-il la télévision ou les plateformes? Est-ce qu'il crée des plateformes aussi? Parce que tu as beaucoup parlé finalement des États-Unis, un peu d'Europe. Quelle est la place de l'Asie dans le futur?
Alors, c'est, très bonne question aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, sauf que les gens regardent beaucoup des séries asiatiques dans le monde entier, et notamment des séries coréennes. Et la Corée du Sud est un exemple extrêmement intéressant. La Corée du Sud, c'est un relativement petit pays, très dynamique dans beaucoup de domaines, technologie et dans beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a 15 ans, ils ont une volonté de décider de créer ce qu'on appelle le soft power et de développer deux industries de manière majeure. La production de séries télévisées et la production de musique. Et aujourd'hui, quelles sont les séries télévisées coréennes qui font un carton sur les grandes plateformes, souvent américaines, c'est beaucoup de séries coréennes. Des jeux et des émissions de divertissement sont souvent des formats coréens. Et c'est un développement qui a été tout à fait considérable. Il y a des grands films coréens qui se développent et qui se vendent partout dans le monde. Quel est l'autre pays ? Et donc, il y a une demi-question. Est-ce qu'il y a des plateformes ? Il y a des plateformes locales, il y a des plateformes en Inde, il y a des plateformes locales en Asie, mais il n'y en a pas encore en plateforme vidéo, hein, équivalent, qui ont conquis le monde entier. Par contre, en soft power, en nombre, en fabrication de production, ils ont vraiment remarquablement réussi, les Coréens notamment. Les Japonais également, mais les Coréens ont une longueur d'avance. Quel est le pays qui se dit que le soft power est important et qui va miser 100 millions de dollars sur le soft power pour produire des séries mondiales? L'Arabie Saoudite.
Ah, Saudi Arabie. Ah, ok. Bon. Voilà, chacun.
Donc la guerre n'est pas terminée.
Réfléchis.
La guerre des images, en tout cas.
Okay. Le temps tourne toujours. Il est midi 5. Juste vraiment quelques mots. Interdire à une chaîne d'exister pour ses idées. Sa manière de dire les choses aussi. Point de vue de pro de l'audiovisuel depuis des années. Comment vous avez réagi? C'est C8 et puis c'est NRJ 12 aussi.
Alors, ça me permet de ne pas répondre à la question. Non. Ça me permet de rappeler comment...
Poser la question ne veut pas dire qu'on adhère à leurs idées ou quoi que ce soit, ou leur manière de faire. Mais quand même, dans la démarche, c'est quand même assez nouveau.
Oui. Aujourd'hui, donc, en France, tout est très réglementé, vous le savez bien. Juste pour rentrer dans cette prairie, vous avez vu, il y a deux pages de règles avec des... Bah, la télé, c'est à peu près pareil.
On a l'intention de continuer nos rencontres, Thomas, s'il vous plaît. Donc, c'est très bien qu'il y ait des règles, parfois, que nous respectons.
C'est très bien qu'il y ait des règles. Il y en a plus en France que dans d'autres pays. Mais il y a une règle qui existe dans tous les pays européens, c'est d'attribuer, je vous ai dit, les fréquences, c'est un bien public d'attribuer les fréquences. Ces fréquences sont attribuées non pas par le gouvernement, mais par le CSA, qui est devenu l'ARCOM quand ça a fusionné avec la 2PI. Et donc, on a une autorisation pour une durée limitée, qui est 10 ans plus 5 ans. Si on s'est bien tenu pendant 10 ans, on a automatiquement 50 plus. Et donc, tous les 15 ans, alors il y a eu des périodes qui ont eu des allongements pour différentes raisons, l'autorisation d'émettre s'arrête. Et à ce moment-là, il y a un appel à candidature. Et vous pouvez, n'importe qui peut déposer un dossier en disant « Moi, je suis candidat pour avoir une chaîne de télévision ». L'année dernière, c'était M6 et TF1 qui étaient en fin d'autorisation d'émettre. Et il y a eu un appel à candidature. Et il y a un candidat qui s'appelle M. Xavier Niel, très puissant, qui est arrivé en disant « Moi, je suis candidat, pas pour TF1, mais je suis candidat pour remplacer M6. »
Il voulait faire 6.
Il voulait faire la chaîne 6, exactement. Et donc, l'ARCOM a décidé de reconduire TF1 et de reconduire M6. Et puis, cette année, là, en ce moment, puisque ça s'est passé il y a quelques semaines, il y a 15 chaînes de télévision de la TNT qui étaient en fin d'autorisation d'émettre. La fin va arriver en 2025. Et il fallait répondre à ces candidatures. Donc, il y avait les 15 qui ont dit « Moi, je veux bien continuer ». Et il y en a 10 autres qui ont dit West France, Daniel Kretinsky, le Tchèque qui investit beaucoup dans les médias en Europe, en France, qui ont dit « Moi, je dépose un dossier de candidature ». Dans certains pays, l'attribution des fréquences se fait aux enchères. C'est celui qui paye le plus qui a la fréquence. C'est notamment le cas en Grande-Bretagne. En France, c'est un concours de beauté, un beauty contest. C'est un concours de beauté. Alors, le concours de beauté, ce n'est pas exactement un concours de beauté. C'est celui qui promet d'investir le plus dans les documentaires, le plus dans la fiction, le plus dans le cinéma, et de respecter et de s'engager le plus dans l'animation, etc. Et on compare les dossiers de candidature. Voilà comment ça se passe. Alors, c'est un moment où vous êtes quand même... Nous, on est 1300 personnes. Si on avait perdu M6, ça aurait été un peu compliqué. Alors après, on a le droit d'exister sur Internet, mais enfin, c'est quand même pas pareil. Et donc, nous, on avait en renouvellement, par exemple, W9, Paris Première, ce qui était pas rien, et Gulli. Donc, trois chaînes sur lesquelles vous êtes obligé de déposer un dossier de candidature. Donc, on a été retenu, et il y a deux chaînes qui n'ont pas été retenues. Ils sont, comme vous l'avez dit, NRJ 12 et C8. Alors, pourquoi elles n'ont pas été retenues? Alors, d'abord, on ne sait pas exactement pourquoi, parce que les motivations de l'ARCOM, c'est l'ARCOM qui décide. L'ARCOM, c'est quoi? Je vous ai dit que c'est la fusion avec la 2PI, mais c'est qui les gens de l'ARCOM? C'est 9 personnes. Il y en a 3 qui sont nommées par le président de l'Assemblée nationale pour 6 ans. trois qui sont nommés par le président du Sénat, deux par le Conseil constitutionnel et un par le Conseil d'État. Et ça s'est renouvelé tous les deux ans, donc c'est assez équilibré, disons, politiquement et en termes de personnalité. Donc on ne sait pas quel côté ça va tomber. C'est eux qui prennent la décision. Et le président, j'ai oublié de le dire, est nommé par le président de l'ARCOM est nommé par le président de la République, et avec un mandat de 6 ans. Et Roch-Olivier Metz, qui est le président, va s'en aller là, en janvier, parce qu'il est renouvelé au bout de 6 ans. Alors donc, ils prennent une décision, ils vont la motiver juridiquement et on ne sait pas exactement quelle sera la motivation.
Sachant qu'antérieurement, il y a quand même des injonctions, il y a quand même des amendes, il y a quand même des doigts sur lesquels une règle tape en disant « vous ne vous êtes pas bien comporté ».
Alors comme vous avez, non pas un cahier des charges, parce qu'on appelle ça une convention, vous avez un certain nombre d'obligations, et des obligations de droit commun, puis des obligations spécifiques. Et C8, notamment, a eu un certain nombre. Alors, c'est un degré, hein, c'est très administratif. Vous avez une mise en demeure, une mise en garde et ensuite une sanction. A eu pour 6 400 000 euros de sanctions. Par exemple, quand Louis Boyard de LFI a été reçu par Cyril Hanouna et qu'ils se sont invectivés et insultés, ou notamment vice-versa d'ailleurs, mais c'est quand même un député de la
République.
Car
il était député depuis ex-chroniqueur à député.
Ex-chroniqueur, député de LFI. Enfin, en tout cas, il y a eu 3,5 millions d'amendes pour cette séquence-là. Il y a eu d'autres amendes pour publicité clandestine. C'est-à-dire que si vous avez un T-shirt avec marqué Lacoste dessus et qu'il y a trop de plans, même si vous n'avez pas été payé par Lacoste, même si c'est un invité, vous pouvez avoir une mise en demeure, vous pouvez avoir une amende. Donc il y a eu pour 6 400 000 euros d'amende un comportement général de C8 qui sans doute a déplu à l'ARCOM. Mais la motivation, je le dis une fois de plus, c'est pour ça que C8 et NRJ12... Alors pourquoi NRJ12 n'a pas été renouvelé? Donc un, je ne sais pas. Deux, on peut imaginer que c'est parce qu'ils n'ont jamais atteint l'équilibre en 20 ans. L'équilibre économique.
Il n'y a pas eu d'amende ou de...
Il y a eu quelques amendes, mais pas de manière significative. Voilà. Les amendes, ça peut être pour dépassement publicitaire, par exemple. Si vous avez droit qu'à 12 minutes de pub par heure, si vous faites 12 minutes et 10 secondes, vous pouvez avoir un avertissement et puis ensuite une sanction pécuniaire. Bref, tout ça est très réglementé.
Toutes les autres chaînes, elles s'y tiennent à ces règles-là, il faut quand même le noter.
Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, C8 va encore exister jusqu'au 25 février. Les autres, c'est des échéances tout au long de l'année 2025. Et ensuite, elles vont s'arrêter, être remplacées l'une par Ouest France TV, l'autre par Daniel Kretinsky, donc, qui a racheté notamment le magazine Elle et un certain nombre de médias, Prisma, etc., en France. Et donc, il va y avoir deux nouvelles chaînes. Mais ceux qui n'ont pas été renouvelés vont probablement faire appel au Conseil d'État pour faire un recours au Conseil d'État. Donc, il va y avoir encore un peu de suspense dans les mois suivants. Mais pourquoi, pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'ont réagi? C'est que, comme ils n'ont pas la motivation, ils ne peuvent pas faire encore le recours et on ne sait pas s'ils vont faire ce recours.
Mais ils peuvent glisser sur une autre chaîne aussi, aller sur Canal, passer des émissions qui étaient... On peut jouer au jeu comme ça de bonneteau?
C'est-à-dire que C8 pourrait... Techniquement, on peut imaginer beaucoup de choses. C8 peut continuer juste sur Internet. C'est pas pareil. Des émissions de C8 peuvent se retrouver sur d'autres chaînes. Il peut se passer beaucoup de choses. Après, chacun prend son risque.
Bien, on va arriver tout doucement. Juste un chiffre qui m'a marqué pour votre autre activité, la récidive en France. Oui, on passe du coq à l'âne, mais franchement, j'ai promis qu'on en parlerait. La récidive en France, quand on sort de prison... L'enjeu, le risque, quel est-il?
Oui, si je peux passer un message là-dessus, parce que je suis donc président de la Fondation M6 pour les prisons. Drôle d'idée pour une chaîne comme M6, mais ça fait 15 ans qu'on s'intéresse à ce sujet. Pourquoi? Parce que personne s'y intéresse vraiment, ou en tout cas peu d'entreprises s'y intéressent vraiment. Ce chiffre, 60% des détenus qui sortent de prison, 60% récidivent dans les 5 ans. 60%. S'ils trouvent du travail et s'ils sont réintégrés dans la société, la récidive est de 5%. Donc si on règle le problème de la récidive et si on règle donc le problème de la réintégration, on règle une bonne partie du problème
Donc il y a le sujet de la privation de la liberté en prison, où c'est comment on gère, enfin, c'est un vaste sujet. Et puis il y a le sujet de la sortie, comment on accompagne.
Alors les deux sujets sont liés parce qu'en fait, il y a une caractéristique des détenus, c'est que beaucoup n'ont pas connu l'entreprise avant d'entrer en prison. D'ailleurs, les directions de l'administration pénitentiaire nous disaient que de plus en plus, des détenus qui rentrent en prison n'ont pas connu l'entreprise, n'ont pas connu le travail, mais ont des parents qui n'ont pas connu l'entreprise non plus.
Oula,
pas connu
génération le travail. 2. Oui.
Donc quand vous sortez, vous êtes déstabilisé parce que vous avez vécu enfermé 22 heures sur 24, il ne faut jamais se souvenir, faut jamais oublier ça, en prison. Mais quand vous sortez, vous devez tout réapprendre.
Ok. Et pour aller vite, concrètement, on est chef d'entreprise, masculin ou féminin, on veut agir. Il y a des associations qui proposent à des collaborateurs d'accompagner en quelque sorte un détenu, un ex-détenu.
Oui, donc les deux sujets sont liés parce que commencer à travailler en prison, c'est déjà réapprendre le fait d'avoir un boss, d'avoir des horaires et d'avoir une fonction. Donc ça, le travail en prison, ça fait partie du sujet. Et puis l'accompagnement à la sortie de prison, l'accompagnement social et l'accompagnement pour aider les ex-détenus à apprendre les codes du travail, si je puis dire, tous les codes dont on a besoin pour apprendre à travailler. Il y a beaucoup d'entreprises qui font déjà ce métier-là. Le BTP le fait beaucoup. La grande distribution le fait beaucoup. C'est d'ailleurs compliqué parce que quand on est ancien détenu et qu'on travaille, nous, on en a également à M6, on n'a pas envie de dire qu'on est ancien détenu. Et puis, c'est normal, quand on est entrepreneur, d'avoir peur d'employer un ancien détenu. C'est très difficile. Mais la satisfaction, je peux vous dire, que peuvent avoir les sociétés qui emploient des anciens détenus et qui réussissent à les remettre sur le droit chemin, c'est une satisfaction à la fois pour les équipes et pour les entreprises qui est absolument exceptionnelle.
Merci Thomas Valentin, merci beaucoup.
Merci beaucoup.